Chers frères et sœurs en Christ, la thématique de notre dimanche s'intitule donc « Le message de la réconciliation ». Réconciliation. Un défi qui semble aujourd'hui hors de portée au Moyen-Orient, tellement les traumatismes s'accumulent, les discours d'exclusion se radicalisent, les passages à l'acte violent s'enchaînent. Malgré l'épuisement des populations et leur désir, au moins je dirais, d'absence de conflit, si ce n'est de paix véritable, bien les rapports de force et logiques d'affrontement prédominent au niveau des appareils d'État, des mouvements ultranationalistes ou des groupes fondamentalistes. Ceux qui prétendent imposer la paix par la force sèment la destruction. Et ils récoltent surtout une plus grande insécurité, émaillée d'impasses militaires et diplomatiques. L'usage brut de la force pour dominer ou écraser l'autre complètement ne fonctionne simplement pas, mais engendre de nouveaux cycles de violence. Enfin, de part et d'autre, Dieu est annexé. Dieu est annexé de manière partisane, pour justifier avec cynisme ou fanatisme l'usage des armes et la violence de l'oppression. On a entendu ça chez les soutiens de Trump, évidemment le régime théocratique des Mollahs en Iran, évidemment le Hezbollah, mais aussi du côté israélien, Dieu est annexé. Convoquer le Très-Haut pour couvrir ses crimes, ici au plus bas de l'inhumanité, est sans doute une des manières les plus graves d'invoquer le nom de Dieu en vain, pour tromper, comme l'interdit le troisième commandement. Et c'est pour cela que lire les trois versets qui concluent le livre du prophète Michée, versets qui nous parlent de pardon et de réconciliation, finalement n'aurait pas se faire sans parcourir l'ensemble des sept chapitres du livre de Michée. Alors voilà, c'est votre devoir, cet après-midi fait très chaud, il faut rester chez soi. Vous pouvez prendre un ventilateur et lire Michée, c'est que sept chapitres. Ce qui est toujours étonnant chez les prophètes bibliques, c'est leur capacité à passer d'un même souffle de la dénonciation radicale de tous les pouvoirs, toutes les faussetés, toutes les injustices et aux catastrophes, aux malheurs qui en résultent, à l'annonce d'une espérance, d'une promesse de paix, et d'un véritable retour à Dieu. Par exemple, nous apprécions beaucoup la beauté de cette image saisissante au chapitre 4, où le prophète annonce que de leurs épées, ils forgeront des socles de charrues, de leurs lances, des serpes, qu'une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, qu'on n'apprendra plus la guerre, que chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier. Un verset similaire du prophète Ésaïe a inspiré une célèbre statue sur le parvis du siège de l'ONU à New York, comme un idéal. Mais ce serait une lecture bancale du prophète Michée de passer trop rapidement sur sa critique féroce des puissants de son temps, critique qui exprime combien Dieu est en procès avec notre monde, avec ceux qui commettent les injustices de notre monde. Alors je vais prendre un petit extrait du prophète Michée, comme une piqûre de rappel prophétique, pour montrer que vraiment ça y allait. Vous avez plus de courage que nous à l'époque. Au chapitre 3, par exemple, juste les versets 9 à 12. Écoutez, je vous prie, chef de la maison de Jacob, magistrat de la maison d'Israël, vous qui avez l'équité, l'égalité en abomination. Vous qui tordez toute droiture, vous qui bâtissez Sion dans le sang, Jérusalem dans l'injustice. Ces chefs, ils jugent pour des pots de vin. Ces prêtres enseignent pour un salaire. Les prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Et ils s'appuient sur le Seigneur en disant, le Seigneur n'est-il pas parmi nous? Aucun malheur ne s'abattra sur nous. Mais c'est donc bien à cause de vous que Sion sera labouré comme un champ, que Jérusalem deviendra un monceau de pierres, que la montagne de la maison du Seigneur deviendra une hauteur couverte de broussailles. De tels passages nous rappellent que les écrits des prophètes qui ont trouvé leur place dans la Bible ne proviennent pas de ceux qui ont servi avec déférence les pouvoirs politiques ou religieux de leur temps. Les prophètes étaient nombreux, les prophètes qui étaient présents à la cour du roi avaient plutôt tout intérêt à raconter au nom de Dieu ce que le pouvoir voulait entendre. Mais de cela, on a oublié leur nom et leurs paroles fumeuses ne se retrouvent pas dans la Bible, elles n'ont pas été mises par écrit. Mais chez lui, il a eu du discernement et du courage. Avant de proclamer la grâce infinie de Dieu, source de pardon et de compassion, qui noie notre péché au plus profond de la mer, il a su nommer les injustices. Et Michée a aussi su rappeler dans un autre verset célèbre que ce que le Seigneur a fait connaître à l'être humain, il lui a fait connaître ce qui est bien, à savoir agir selon le droit, aimer la bonté, marcher humblement avec Dieu. C'est notre boussole. Et c'est pour cela que je crois que tout chemin de réconciliation exige, pour parvenir à la paix, d'engager un processus de vérité pour reconnaître les torts, les souffrances des uns et des autres, le mal commis. Si l'amour de Dieu se révèle sans condition, quand tout d'un coup nous le découvrons, notre cheminement à nous a besoin de temps, de tours et de détours. Et il rencontre généralement beaucoup d'impasses et d'hésitations, à l'image du parcours du fils cadet de la parabole de Jésus en Luc 15, que Mathilde a signé tout à l'heure. Il a souvent été relevé que l'image de Dieu que portent en eux les deux fils de l'histoire, cette image, elle est similaire pour l'un et pour l'autre. Tous les deux, ils perçoivent leur père comme une personne intraitable, dont la justice est absente de compassion. Et c'est pourquoi le fils cadet n'imagine même plus être accueilli comme son enfant. Et il prépare longuement, en revenant, son long discours de repentance, qu'on n'a même pas le temps de dire, et il réfléchit, il dit, mais au moins ma condition sera celle d'un ouvrier de mon père. Et c'est pourquoi le fils cadet, qui a le même genre de représentation, lui qui s'est bien tenu et qui n'a jamais rien osé demander, qui se considère juste comme un simple serviteur, même esclave fidèle de son père, bien quand l'autre revient, on lui fait la fête, il s'estime lésé. Aucun des deux ne s'attendait en fait à la joie du père, qui reconnaît le parcours du fils cadet, son passage de la mort à la vie, symbolisé par son retour. Il était perdu. Et il est retrouvé, faisons la fête. Mais est-ce que le frère aîné va pouvoir lui aussi retrouver son frère cadet et entrer dans la fête? Gros point d'interrogation. Jésus laisse la question ouverte complètement à la fin de l'histoire. Parce qu'il appartient à chacun de nous de parcourir ou non le chemin de la réconciliation, lorsque le mal a été fait. Si l'amour de Dieu comme Père est vraiment assuré pour tous, celui de notre frère ou de notre sœur blessée, c'est un chemin risqué, à tenter, à reconstruire, mais ce n'est pas garanti à l'avance. Les deux frères, s'ils se rencontrent, devront commencer à s'expliquer, dans tous les sens du terme, dire en vérité qu'ils sont l'un pour l'autre maintenant, réapprendre le sens de leur fraternité pour atteindre peut-être un jour un pardon véritable et une paix réelle. Sans aucun doute, le Père souhaite qu'il s'engage sur cette voie de guérison de leur relation. Lui qui a compassion de nous et qui piétine nos fautes, comme le dit Michée, pour aplanir nos retrouvailles. Mais que c'est difficile et parfois très long. Réconciliation. Chers frères et sœurs, avec nos partenaires, Il y a quelques semaines, nous avions, comme régulièrement, une visioconférence. Nous avons échangé sur la situation humanitaire catastrophique au Liban. Et soudainement, je ne sais plus qui l'a dit en premier, le terme de réconciliation a surgi comme ça. Au-delà des actions de secours que les églises peuvent faire, au-delà de l'aide apportée aux familles déplacées, au Liban ou ailleurs, comment l'Église peut-elle être davantage agente de réconciliation? Réconciliation, j'avoue, quand ils ont prononcé ce mot-là, c'était pas moi le premier, c'était comme un souffle d'air frais, on en a besoin, un souffle d'air frais au milieu des considérations géopolitiques incertaines, au milieu de l'évocation des horreurs de la guerre et des besoins énormes des populations, au milieu encore de ces questions des tensions internes qui menacent de faire imploser le Liban. Prononcer ce mot de réconciliation, tout d'un coup, c'était comme déboucher l'horizon, s'ouvrir à une vision d'espérance, comme celle où un jour les épées sont enfin recyclées en somme de charrue. Mais c'était aussi et déjà donner un sens plus profond aux actions d'urgence menées aujourd'hui sur le terrain. Et je vais venir à ça. Pour encore mieux comprendre le contexte, vous avez compris que Israël vise en premier les Libanais de religion, de confession musulmane, chiite. C'est la communauté religieuse dont est issue cette milice du Hezbollah. Il faut reconnaître, si on est honnête, qu'encore une majorité de chiites soutiennent le Hezbollah, pas tous, loin de là. Puis il y a d'autres partis chiites, etc. Puis il faut bien qu'au Liban, avec toutes ces communautés, chacune soit représentée d'une manière ou d'une autre. Et c'est quand même trop. Or, les autres Libanais, les chrétiens en majorité, les musulmans sunnites, les druzes, alawites, eux, ils blâment le Hezbollah pour sa politique pro-iranienne, pour avoir donné prétexte à l'armée israélienne, qui était complètement prête, bien sûr, pour avoir donné prétexte pour reprendre un conflit de haute intensité. On savait que le Hezbollah ne pourrait pas tenir. Alors, on savait que tout le pays serait impacté, et le pays est déjà exsangue. Alors imaginez dans ce Liban, aux 18 communautés, les tensions qui travaillent les gens de diverses appartenances politiques ou religieuses. Et du coup, parmi millions de réfugiés, il y a des chrétiens, il y a des musulmans sunnites et autres, mais la grande majorité sont des chiites. Et il y a des gens qui les refusent de les accueillir parce qu'ils sont chiites. À cause de ces tensions politiques et religieuses. Et puis aussi, on se dit, si moi, là, j'ouvre ma porte, mon local paroissial a des réfugiés, ils sont chiites, est-ce qu'il n'y a pas un gars du Hezbollah à l'intérieur qu'Israël va vouloir chercher à éliminer? On est tous en danger si on accueille. Vous imaginez les hésitations. Et pourtant, ces familles chiites, arrachées à leur foyer, elles manquent de tout. Pour beaucoup, elles ont vu des horreurs. Elles ont, pour beaucoup, perdu leurs biens, leur maison. Alors que faire? Que veut dire très concrètement ici aimer son prochain comme soi-même? Ou, si on les considère ainsi, aimer son ennemi? Les églises protestantes libanaises ont décidé clairement de s'engager et de venir en aide à tous ceux qui souffrent, sans considération politique ou communautaire, malgré les risques. Parce que nous sommes là au cœur de l'Évangile qui nous invite d'abord à considérer les plus démunis, les plus vulnérables, et qui nous pousse aussi ainsi à risquer des chemins de réconciliation. C'est aussi le message de Miché, c'est pas seulement le message de l'Évangile. Si Miché critique les pouvoirs de son temps, c'est bien parce qu'il ne respecte pas les plus vulnérables. Alors par exemple, un pasteur libanais, que je connais bien, s'appelle Sebou Terzian, il faudrait dire Terzian. Au Liban, il y a une grande communauté arménienne aussi, donc il est d'origine arménienne. Il m'a raconté un jour qu'il s'est présenté à un de ses refuges improvisés dans une école où il y a des réfugiés pour apporter l'aide de l'Église. Et bien sûr, au début, on se dit, mais on ne se connaît pas, on fait connaissance, on vérifie qui est là, on soupçonne, pourquoi voulez-vous nous aider, il n'y a pas un truc caché par derrière. Donc, il a discuté avec le responsable chiite local, ils ont fait connaissance, et on a dit, mais pourquoi voulez-vous nous aider? Alors c'est beau à dire, mais c'est parce que le Christ nous le demande. C'est ça le sens de l'Évangile. Et puis en tant qu'Arménien, dont les grands-parents avaient été victimes du génocide de 1915, qui s'étaient réfugiés au Liban, qui avaient été bien accueillis, les Arméniens ont été bien accueillis aussi au Liban par les populations arabes, et nous aussi un jour, on a été exclus, on a été sur les routes, on a été réfugiés, déplacés. Ben, ce témoignage a créé une relation positive, une compréhension mutuelle, un apaisement des tensions, qui initie un chemin de réconciliation entre communautés. C'est pas neutre pour un chrétien d'aider un chiite ou un versant. Et tout cela, tous les lieux qui accueillent ceux d'une autre communauté peuvent en témoigner au Liban. Au cœur de la détresse et des tensions, il y a des actions qui reconstruisent la fraternité, qui œuvrent à la cohésion sociale et finalement qui ouvrent à la paix. Peut-être qu'un jour on pourra la faire aussi à ceux qui sont de l'autre côté, là en Galilée, on pourra traverser un jour cette frontière, aujourd'hui infranchissable. Alors pour conclure, voici quelques images de ce qui est entrepris par les deux principales, les deux plus grandes églises protestantes libanaises, qui sont depuis plus d'un siècle les partenaires de l'Action chrétienne en Orient. Il y a le Synode arabe, la principale église protestante, évidemment de langue arabe, présente au Liban mais aussi en Syrie. Elle a une ONG avec le cœur formé par des mains qui s'appelle Compassion Protestant Society, association protestante de compassion. Et puis il y a les Arméniens, vous avez les Arméniens, vous voyez un peu d'Arméniens sur la gauche dans leur logo. Ils ont un petit côté de crise pour réagir à ce genre de choses. Et tous les deux ont mis en place plusieurs types d'actions. De l'aide alimentaire, de l'équipe d'hygiène, de l'accueil et l'hébergement. Aussi du soutien psychosocial, parce que les gens sont traumatisés. Et en particulier, on pense aux enfants. Ils n'ont plus à l'école, compliqué pour jouer, ils ne comprennent pas ce qui se passe. On sait que les traumas s'inscrivent facilement à l'époque de l'enfance. Je crois qu'il y a l'autre PC, un peu écran. Voilà par exemple à Sidon. Vous connaissez les histoires de Jésus qui se rendait à Tyr et à Sidon, alors Tyr est sous les bombes. Sidon, un peu plus au nord, sur la côte, il y a une paroisse protestante, ils ont ouvert leur local, ils ont hébergé une famille, comme vous voyez, musulmane par exemple. Distribuer des matelas pour les personnes qui trouvent refuge à droite et à gauche. Aussi, tout ce qui est équipe d'hygiène, du shampoing, on peut utiliser dentifrice et autres. Ça, c'est à Miniara. Miniara, c'est tout au nord du pays, près de la frontière avec la Syrie. Il y a une paroisse protestante là-bas, très active, que je connais bien aussi. Et vous voyez qu'il y a des réfugiés dans toutes les localités du Liban où il n'y a pas de frappe, il y a des réfugiés, en fait. Parce que c'est énorme. Là, c'est à Tripoli, la deuxième plus grande ville du Liban, aussi au nord. Et avec l'ONG CPS, toute paroisse de Tripoli, qui peut-être compte 20 personnes, a fait beaucoup. Ils ont distribué aussi des kits d'hygiène, et après ils ont vu que les gens avaient faim. Ils ont commencé à faire des repas, puis ça fait boule de neige. Maintenant ils se connaissent bien, ils mangent ensemble. Voilà. Oups, la préparation de repas. Voilà. Et ça continue. D'ailleurs, cette paroisse, petite parenthèse, il y a la première femme pasteur du Moyen-Orient qui a été ordonnée. Voilà, c'était en 2018. D'Amour, alors vous ne connaissez peut-être pas D'Amour, c'est une ville au Liban qui a été le lieu d'un terrible massacre de chrétiens pendant la guerre civile. Du coup, accueillir en tant que chrétien là-bas de musulmans, chiites, c'est déjà un geste en soi. Et vous voyez, les femmes, elles sont vêtues tout en noir, c'est des femmes traditionnelles musulmanes chiites. Une ONG chrétienne prépare avec elle un repas de fête musulman, ça veut dire quelque chose. Voilà. Et ça, c'est nos amis arméniens, dans une de leurs églises, le groupe de jeunes, d'animateurs, ont accueilli des enfants, réfugiés à côté, dans des écoles. Des fois, les gens sont sous tente, des fois dans la voiture, des fois dans la rue. Partout où on peut, on trouve des gens qui ont besoin d'offrir quelques temps comme ça, de répit, de joie, de jeu, c'est important. À Beyrouth, il y a l'université arménienne protestante qui, bien sûr, accueille des gens de toutes les communautés. Et bien, les étudiants, ils ont fait un petit groupe aussi d'action, de solidarité, pareil, ils ont distribuer à manger, distribuer des kits d'hygiène, des matelas, des coussins, etc. Ce sont des artisans de paix. Amir Bittar, le directeur de l'ONG CPS, nous disait « C'est notre responsabilité d'œuvrer à la paix là où nous sommes et à notre niveau. » Et lui, il a déjà mis en place non seulement des actions d'urgence humanitaire, mais des projets d'éducation à la non-violence qui réunit les gens de toutes les communautés et qui vont après pouvoir, là où ils sont, dans leur famille, dans leur milieu socio-professionnel, dans leur village, apaiser ces tensions qui travaillent la société libanaise. Parce qu'il y a l'urgence d'aujourd'hui, mais il y a toujours demain aussi à préparer. Merci pour votre attention, je sais que j'étais long. Merci pour votre soutien dans la prière, dans la solidarité. Amen.